Vous écoutez bien RFI, 4h à Paris, 2h en temps universel.
Mathis Limano.
À la une de votre journal, un terrible châtiment. C'est ce que promet Hassan Nasrallah à Israël. Allocution ce jeudi du chef du Hezbollah au Liban après les deux attaques au Beeper et au Talkie-Walkie. Nous nous rendrons à Tel Aviv avec cette question. Les Israéliens prennent-ils cette menace au sérieux? En Afrique du Sud, absence remarquée des États-Unis au salon africain de l'aéronautique et de la défense. Les Russes, eux, étaient bien présents. Et puis on évoquera la victoire en Ligue des Champions de Monaco sur le FC Barcelone. Bienvenue. Au Liban, réaction ce jeudi du leader du Hezbollah suite aux explosions de Beeper et de Talkie-Walkie mardi et mercredi. Bilan, 37 morts et près de 3000 blessés. Hassan Nasrallah, soutien du Hamas, attribue cette opération à Israël et accuse le pays d'avoir franchi toutes les lignes rouges. Selon lui, c'est une déclaration de guerre. Israël n'a pas confirmé ou reconnu être impliqué dans l'opération. Le gouvernement israélien assure en revanche que ces opérations vont continuer alors que les États-Unis ou encore la France appellent à la désescalade. Je vous propose d'aller dans les rues de Tel Aviv pour prendre le pouls après ce discours. Qu'en pensent les Israéliens? Ont-ils peur d'une escalade militaire entre leur pays et le Hezbollah? Justine Fontaine leur a posé la question.
En cette veille de week-end ici, les terrasses des restaurants et des bars sont pleines. La vie suit son cours, mais les passants que nous avons rencontrés se disent tout de même inquiets, comme Aviv, 33 ans.
I'm a bit worried from an escalation that...
Je suis un peu préoccupé qu'une escalade puisse avoir lieu, oui. Ou même que les forces israéliennes entrent au Liban. Ou alors que le Hezbollah décide de bombarder Tel Aviv.
Quelques mètres plus loin, Zohar Baror, 30 ans, promène son chien dans un parc. Elle se demande si elle doit prendre ou non au sérieux les discours d'Hassan Nasrallah.
Il fait tout le temps des déclarations, depuis son bunker. Ils disent tout le temps qu'ils vont faire quelque chose d'énorme. Et la plupart du temps, ils ne passent pas à l'action. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils peuvent le faire.
Elle se dit prête à soutenir une éventuelle intervention terrestre israélienne dans le sud du Liban, si cela permet d'aider à faire pression sur le Hamas et à faire revenir les otages, dit la jeune femme. Justine Fontaine, Tel Aviv, RFI.
L'armée israélienne a fait état de la mort de deux de ses soldats dans le nord du pays. Hier jeudi, ses avions ont survolé Beyrouth en plein discours d'Hassan Nasrallah. Plus tard dans la soirée, l'armée israélienne a indiqué avoir mené une centaine de raids israéliens sur des positions du Hezbollah. Par ailleurs, les compagnies aériennes Lufthansa, Air France et Delta ont annoncé prolonger la suspension de leurs vols vers Tel Aviv et Beyrouth. Précision quant à la durée de ces suspensions sur RFI.fr. La Turquie ou encore le Pakistan. Ces puissances militaires sont présentes au Salon africain de l'aéronautique et de la défense. Salon qui se tient jusqu'à fin de semaine à Pretoria, en Afrique du Sud. Et pour cette 12e édition, une absence s'est faite remarquer, celle des États-Unis. La Russie a, elle, bien fait le déplacement. Claire Bargelès.
Lors de sa visite des exposants mercredi, le président Cyril Ramaphosa n'est pas passé devant, mais Moscou a bien un stand dans l'un des hangars de cette base aérienne sud-africaine pour montrer le matériel proposé par l'agence Rossoboron Export, chargée des exportations d'armes pour le pays. En revanche, pas de traces de ses avions de combat. La Russie est présente aux côtés des autres alliés des BRICS, avec la Chine, le Brésil et l'Inde, qui sont aussi venus présenter leur équipement militaire. Quant à l'absence des États-Unis, le parti sud-africain de l'Alliance démocratique dénonce un manque de volonté de la part de Pretoria, qui n'aurait pas accordé à temps les autorisations nécessaires pour permettre à la délégation de venir avec son matériel. Mais pour la ministre ANC de la Défense, ce sont les Américains qui n'ont pas suivi la procédure jusqu'au bout. Ce salon se déroule au moment où le ministre des Affaires étrangères, Ronald LaMola, rentre d'une visite à Washington pour resserrer les liens entre les deux nations. Un nouvel exemple d'exercice d'équilibrisme auquel l'Afrique du Sud est régulièrement confrontée depuis le début de la guerre en Ukraine et sa position de non-alignement. Claire Bargelès, de retour de Pretoria, RFI.
Au Mali, toujours aucun bilan officiel de la double attaque djihadiste qui a frappé mardi la capitale. Une école de gendarmerie et une base militaire située à l'aéroport de Bamako ont été visées par le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il est lié à Al-Qaïda. Les autorités maliennes de transition reconnaissent quelques pertes en vies humaines, mais des sources sécuritaires et civiles maliennes parlent de plus de 70 morts. Les négociations de paix attendront entre la Colombie et l'ELN. Cette guérilla est accusée par le gouvernement colombien d'avoir attaqué mardi une base militaire du nord-est du pays. Négociations suspendues donc. Parmi les médiateurs, il y a l'Église. Elle en appelle au retour de la confiance. Écoutez son représentant, Monseigneur Hector Fabio Henao.
Nous faisons tous les efforts pour continuer d'insister sur la nécessité du dialogue. Il faut renforcer les espaces de rencontre, les espaces de négociation. Nous appelons aussi à l'unité de la société colombienne pour rechercher la paix. Nous savons que c'est un moment difficile. Il y a une urgence humanitaire de premier plan. Le défi, c'est de rétablir la confiance entre les parties, de renouer le fil du dialogue du côté du gouvernement comme du côté de l'ELN. C'est très important pour pouvoir avancer dans la possibilité de mettre en application les accords signés. Des transformations territoriales de fond ont été décidées. C'est l'acquis le plus important de ce processus, au même titre que le cessez-le-feu que nos délégués ont évalué comme un élément très positif.
Des propos recueillis par Angelica Pérez. Le continent sud-américain en bref, Edmundo González Urrutia, reconnu président légitime du Venezuela par les eurodéputés. Dans une résolution adoptée ce jeudi, le Parlement européen dénonce en même temps la fraude électorale orchestrée par le régime de Nicolas Maduro. Après 24 heures de fortes tensions et d'ultimes négociations, un accord a finalement été obtenu ce jeudi par Michel Barnier pour la constitution de son gouvernement. Le Premier ministre a réuni dans l'après-midi les dirigeants des Républicains, de l'UDI et des partis du camp présidentiel pour leur présenter le résultat de son casting. Aurélien Devernoy, le chef du gouvernement, s'est ensuite rendu à l'Élysée un peu avant 20h, heure de Paris.
Et l'objet de la rencontre entre Michel Barnier et Emmanuel Macron était évidemment de présenter la liste définitive, a priori parce qu'il peut toujours y avoir des surprises, du nouveau gouvernement. Il aura donc fallu 2 semaines pour le Premier ministre pour parvenir à l'équilibre délicat fixé par le chef de l'État, du rassemblement et un respect du rapport de force dans la coalition nouvellement formée. Cela n'a pas été de tout repos avec des mouvements d'humeur, aussi bien du côté d'Ensemble pour la République, le parti présidentiel, que chez les Républicains. Ce qui se dessine en tout cas ce soir, c'est une équipe gouvernementale assez importante avec 38 membres, soit 4 de plus que le gouvernement sortant de Gabriel Attal. Au sein de cette nouvelle équipe, 16 ministres de plein exercice, dont 10 issus directement du camp présidentiel et 3 des Républicains. La droite récupérait toutefois le stratégique ministère de l'Intérieur. Les affaires étrangères iraient de leur côté aux centristes modérés du MoDem, tout comme la santé. Incertitude encore concernant le ministère de l'Économie et des Finances, poste ô combien sous pression avec le budget difficile à négocier. Le patron des LR, Laurent Wauquiez, a annoncé qu'il avait refusé le poste.
Un gouvernement dévoilé avant dimanche, annonce faite par Matignon. Suite de la première journée de la Ligue des Champions, avec une belle soirée pour l'AS Monaco. Le club du Rocher a bien débuté sa campagne européenne avec une victoire de prestige face au FC Barcelone. Un succès 2-1, Cédric de Oliveira qui peut lui donner de la confiance pour la suite de la compétition.
6 ans que Monaco attendait ce genre de soirée et l'ASM a été servi avec un grand d'Europe, le FC Barcelone, le leader actuel du championnat d'Espagne. Les joueurs du Rocher ont pourtant pris l'ascendant assez vite après l'exclusion prématurée d'Eric Garcia. Et à 10, les Catalans ont cédé sur un but du virevoltant Magnès Akliouche au quart d'heure de jeu. Mais ils ont encore pu compter sur le talent fou de certains de leurs joueurs et c'est le plus dangereux d'entre eux, Lamine Yamal, qui a égalisé sur un enchaînement de grande classe dont il commence à être coutumier. Une frappe du gauche au ras du poteau qui n'a laissé aucune chance au portier monégasque. Le premier but en Ligue des Champions pour la jeune star de 17 ans. À 1 partout et en supériorité numérique, Monaco n'a pourtant pas abdiqué et c'est un autre espoir qui a fait la différence à la 71e minute. Georges Ilenikena, attaquant franco-nigérian de 18 ans, a trouvé la faille dans une défense blaugrana aux abonnés absents. 2-1 suffisant pour l'ASM, outre la confiance engrangée. Ce succès peut lui permettre de nourrir certaines ambitions dans cette nouvelle Ligue des Champions.
Prochaine rencontre pour Monaco dans 2 semaines sur la pelouse du Dynamo Zagreb. Autre résultat de la soirée, victoire de Brest contre les Autrichiens de Sturm Graz, 2-1. Même score pour l'Atlético de Madrid contre Leipzig. Et puis 0-0 entre l'Atalanta Bergame et Arsenal. RFI, presque 4h10 dans nos studios à Paris. Merci d'être à l'écoute de la Radio du Monde. Tout de suite, c'est 8 milliards de voisins. Retour de l'information dans 50 minutes.